France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Donald Trump rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine à Budapest dans les deux prochaines semaines avec toujours pour objectif de tenter de mettre fin à la guerre en Ukraine. Un sommet surprise qui marque, on le verra, un regain de cordialité non moins inattendu entre les deux chefs d'État. On se rendra par ailleurs aux États-Unis où le gouvernement veut de moins en moins d'étudiants étrangers dans ses facs. On en parlera aussi avec notre invité. À suivre également l'investiture ce matin du nouvel homme fort de Madagascar. Nous serons à Rome au lendemain d'une tentative d'attentat contre un journaliste d'investigation. Puis on parlera politique en France, plus exactement des circonvolutions auxquelles doit s'astreindre désormais Emmanuel Macron pour essayer de conserver le soutien de ses troupes. Selon son propre décompte et parfois aussi sa propre novlangue, Donald Trump aurait donc mis fin depuis son investiture à pas moins de 8 guerres à travers le monde, dont la dernière en date, celle au Proche-Orient. Il serait désormais tout disposé à mettre un terme à un 9e conflit, celui qui depuis bientôt 4 ans maintenant déchire l'Ukraine et la Russie. Alors il est évident que Washington n'a pas aujourd'hui la même influence sur Moscou que sur Tel Aviv, mais force est de constater malgré tout qu'à une époque où la puissance de la diplomatie dépend pour l'essentiel de la disposition de recourir à la force, il paraît difficile aujourd'hui de regarder ailleurs que vers la superpuissance militaire américaine pour espérer freiner les ambitions néo-impérialistes de Moscou et notamment grâce à son arsenal de missiles de précision longue portée Tomahawk, qui ce sera d'ailleurs le sujet principal de la rencontre organisée aujourd'hui à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Reste que le coup de fil de la veille entre le président américain et cette fois-ci son homologue russe a marqué un regain de cordialité assez inattendu entre les deux hommes, eux dont la relation s'était plutôt rafraîchie après leur rencontre l'été dernier en Alaska. Ils auraient même convenu de se rencontrer donc à nouveau prochainement, de sorte que le ton plutôt conciliant adopté hier par Donald Trump après sa discussion avec Vladimir Poutine laisse désormais planer le doute sur la probabilité que Washington fournisse effectivement à moyen terme les armes demandées par Kiev, voire ravive les craintes d'une énième capitulation américaine face à la Russie. Et preuve d'ailleurs des égards de Donald Trump pour son homologue, c'est lui qui a proposé que leur prochaine rencontre se tienne à Budapest, chez un certain Viktor Orban, soit le plus proche allié du maître du Kremlin au sein de l'Union européenne. Les précisions sur place de Florence Labruyère.
Ce matin, à la radio hongroise, Viktor Orban s'est félicité, ce qu'il proposait depuis des mois est sur le point de se réaliser, un sommet à Budapest entre les présidents américains et russes. « C'est une excellente nouvelle pour toutes les personnes qui veulent la paix dans le monde », a déclaré le Premier ministre hongrois. Depuis le début de la guerre, Viktor Orban prône la paix. Il répète que Kiev devrait déposer les armes et que l'Ukraine ne gagnera jamais face à une Russie trop puissante. Viktor Orban reproche aussi à l'Union européenne de pousser les Européens à entrer en guerre aux côtés de Kiev. En cela, le Premier ministre hongrois reprend presque mot pour mot les arguments de Vladimir Poutine. Il sabote aussi la politique européenne d'aide à l'Ukraine. Et c'est pour cela que jusqu'ici, Viktor Orban était très isolé à Bruxelles. La majorité des dirigeants européens le soupçonnent d'être le cheval de Troie de Vladimir Poutine. Cette rencontre annoncée entre Trump et Poutine, c'est la revanche de Viktor Orban sur l'Union européenne. Le sommet va conforter sa stratégie et renforcer sa position de faiseur de paix.
Je précise que ce matin, le Kremlin évoque, je cite, de nombreuses questions à résoudre avant une rencontre avec Donald Trump. Wanted, hier, John Bolton a vu à son tour son visage s'afficher en grand sur la déjà longue liste de ceux que le président américain considère comme des ennemis personnels et dont il a promis de se venger après l'ex-directeur du FBI, James Comey, après la procureure générale de New York, Laetitia James, son ancien conseiller à la sécurité nationale, lequel avait publié un livre au vitriol où il décrivait Donald Trump comme inapte à diriger les États-Unis, a été inculpé hier de 18 chefs d'accusation. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte, face aux abus de pouvoir répétés du milliardaire républicain, que demain des millions d'Américains seront appelés une nouvelle fois à protester pour défendre la démocratie à l'appel du mouvement « No Kings, pas de rois ».
On reste aux États-Unis où l'administration trumpiste est bien décidée à ne plus accueillir à bras ouverts les étudiants étrangers.
Oui, depuis plusieurs mois déjà, les visas sont révoqués au moindre prétexte. L'examen des demandes est devenu extrêmement pointilleux et le résultat, eh bien, c'est toute l'attractivité du pays aujourd'hui qui diminue. Reportage à Atlanta, signé Isabelle Labéry.
Daniel est arrivé d'Inde pour un doctorat en génie chimique. Il en a pour 6 ans au total, si tout va bien, car la future réglementation pourrait limiter son visa étudiant à 4 ans maximum.
Changer les règles, je trouve ça triste.
C'était un rêve pour moi de venir. Ça m'a demandé beaucoup de travail, c'était dur. Et si les États-Unis veulent de moi, je serais fier de travailler ici.
Mais désormais, America First, les révocations de visa étudiants se multiplient au prétexte d'une infraction routière commise 2 ans plus tôt ou d'une participation à une manifestation pro-palestinienne.
Alors moi, je m'appelle Julie.
Faire une première demande est aussi plus compliqué. Les rendez-vous se raréfient, l'interrogatoire est plus poussé.
Ils ont insisté pour savoir l'adresse exacte du lieu où je partais, combien de temps, pourquoi.
Julie, venue comme jeune fille au père à Atlanta, en a fait l'expérience.
Est-ce que vous avez déjà fait partie d'un groupe terroriste ? Ils m'ont également aussi demandé de mettre mes réseaux sociaux en public pour qu'ils puissent checker tout ce dont ils avaient besoin.
Les inscriptions sont en baisse, moins 30% dans certains établissements, avec un gros impact financier, car les étrangers paient des frais de scolarité bien plus élevés que les Américains. Et ce n'est pas la seule conséquence. Ed Phillips enseigne la théologie à l'université Emory.
On a des étudiants africains, coréens, hispanophones. Cette ouverture, ça fait aussi partie de l'enseignement de nos étudiants locaux. La montée du nationalisme dans ce pays passe à côté d'un aspect essentiel de l'éducation. Ce serait une perte majeure de ne plus entendre ces voix différentes.
Une perte d'influence aussi.
Merci.
Peter Sawyer est professeur de droit à Georgia Tech.
L'ouverture des universités américaines était considérée comme du soft power. Parmi les dirigeants mondiaux en poste aujourd'hui, plus de 70 ont fait des études supérieures aux États-Unis. Ça contribue à construire des alliances. Si nous arrêtons ces formations, c'est un sujet de préoccupation.
Singapour et Hong Kong font déjà les yeux doux aux étudiants devenus indésirables aux États-Unis. La carte mondiale de l'enseignement supérieur se redessine.
Et pour continuer d'évoquer donc cette diplomatie des mobilités étudiantes qu'évoquait à l'instant Isabelle Labéry en ces temps géopolitiques troublés, invité à présent de la rédaction Guillaume Tronchet, historien, spécialiste des relations universitaires internationales et chercheur associé à l'Institut d'Histoire Moderne de l'École Normale Supérieure. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On vient de l'entendre, les étudiants étrangers ne sont plus nécessairement les bienvenus dans les universités américaines. On pourrait également citer les restrictions de visa accordées au Canada. Jusqu'à quel point tous ces événements marquent-ils donc un tournant important dans les mobilités étudiantes et au-delà dans la diplomatie universitaire ?
Alors, tournant, c'est difficile à dire à ce stade, mais en tout cas, très clairement, on vit une période de crispation et de repli à caractère malthusien au sein des puissances académiques euro-occidentales, qui est une rupture par rapport effectivement à la période antérieure qu'on a connu depuis la fin de la guerre froide, où les échanges universitaires étaient principalement représentés, en tout cas les représentations sur ces échanges universitaires étaient principalement vues sous l'angle de l'échange interculturel, de l'interculturalité. Je renvoie au film de Clapiche sur l'auberge espagnole qu'envisageait ces échanges étudiants sous ce sens-là, ou la question économique aussi, où les étudiants étaient perçus comme un moteur économique important des universités qui, notamment dans les pays anglo-saxons, vivent des droits d'inscription, ou en tout cas ça comporte une partie importante de leur budget. Et on est aujourd'hui très clairement dans une repolitisation des échanges universitaires internationaux autour de toute une série de sujets, effectivement, qui provoquent cette crispation.
Et justement, quelles sont les principales thématiques, on va dire, qui émergent autour de ce repli ?
Alors les questions qui émergent aujourd'hui, c'est très clairement la question de la sécurité scientifique, avec la dialectique entre la nécessité de l'ouverture académique et en même temps la question de la protection du patrimoine scientifique, avec toutes les questions autour des possibilités d'espionnage scientifique ou de viol de propriété intellectuelle. La question aussi fondamentale qui se pose beaucoup avec la montée de l'illibéralisme et des démocraties libérales, c'est la question de la liberté académique. Et d'ailleurs, France Université a publié cette semaine une série de 10 propositions qui montre que la diplomatie universitaire peut avoir un rôle à jouer, notamment dans les démocraties libérales, dans la promotion de sa liberté académique à l'échelle internationale. C'est quelques-uns des sujets qui se posent, mais pas uniquement.
Vous évoquiez la France à l'instant. En 2018, Paris avait cherché à réformer sa politique d'accueil des étudiants étrangers à travers un plan Bienvenue en France, qui avait suscité d'ailleurs une certaine opposition dans les universités contre l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers. Quels étaient les objectifs de cette réforme et peut-on en dresser 7 ans plus tard, un premier bilan?
Oui, tout à fait. Il y a quelques rapports qui ont été remis récemment, notamment par la Cour des comptes, qui dressent le bilan de cette politique, qui avait pour objectif affiché d'augmenter le nombre d'étudiants étrangers accueillis en France d'ici à 2027 à 500 000 étudiants. Aujourd'hui, on est à 430 000 à peu près, d'après les derniers chiffres de Campus France. Donc la trajectoire est en tout cas est la bonne. Qui avait aussi pour objectif de simplifier les procédures de visa, d'administratif pour l'accueil des étudiants, et aussi qui avait pour objectif, effectivement, d'augmenter les droits d'inscription de façon différenciée pour les étudiants extra-communautaires. Et puis enfin, d'améliorer l'accueil avec une série de labels qui permettaient de monter en puissance en termes de qualité de l'accueil. Le bilan qu'on peut tirer aujourd'hui, c'est qu'il est mitigé, c'est-à-dire qu'effectivement, on a cette augmentation. On a des universités qui se sont saisies de la dimension stratégique internationale et qui intègrent cette dimension de plus en plus dans leur politique d'établissement. Et en même temps, on a bien vu que, et c'est le problème de la diplomatie universitaire, j'ai envie de dire structurellement depuis plus d'un siècle, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de politiques d'État publiques qui sont parfois en contradiction avec les logiques académiques, les politiques de l'immigration, des politiques économiques, du santé, du travail, qui peuvent parfois effectivement imposer au champ universitaire des logiques qui lui sont hétéronomes et qui créent du coup des tensions entre cette diplomatie universitaire et sa volonté d'ouverture.
Ça veut dire que ces tensions révèlent aussi peut-être une forme de concurrence entre d'un côté des universités qui cherchent à développer leurs partenariats internationaux dans un but de véritable coopération scientifique, puis de l'autre des acteurs extérieurs, cette fois-ci à l'université, pour qui d'autres logiques doivent prévaloir.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on a effectivement, la diplomatie universitaire a été confrontée, encore une fois je dis depuis un siècle, à des acteurs qui essayent d'imposer au champ universitaire des logiques qui lui sont extérieures. Alors parfois ces logiques peuvent converger, et c'est ce qui explique les grands moments de développement de la diplomatie universitaire, c'est quand les acteurs convergent sur les objectifs, et parfois au contraire les objectifs peuvent diverger. Et c'est vrai que très clairement, dans les périodes comme nous connaissons aujourd'hui, de hausse de la démographie étudiante, de la difficulté budgétaire de certaines universités pour absorber cette démographie, et la montée aussi de discours de xénophobes qui prospèrent, hein, à la fois sur la contraction du marché de l'emploi, la contraction économique, les difficultés d'accès au logement, on se retrouve effectivement dans des situations où l'internationalisation de l'enseignement supérieur peut être impactée effectivement profondément.
C'est bien compris. Merci Guillaume Tronchet, historien, donc spécialiste des relations universitaires internationales, chercheur associé à l'Institut d'Histoire Moderne de l'École Normale Supérieure, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci.
Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.
Trois jours seulement après sa prise de pouvoir à Madagascar, un colonel doit être investi aujourd'hui à la tête du pays.
Oui, son nom, Michael Randrianira, à 51 ans, ce militaire sera passé en deux années seulement d'une arrestation pour soupçon de tentative de coup d'État à une investiture au poste suprême sans passer par les urnes, tout en s'évertuant bien entendu à entourer à présent sa prise de pouvoir de l'égalité. Alors le coup de grâce est tombé mardi dernier lorsque le président élu André Rajoelina a fui le pays après plusieurs semaines de contestation populaire à l'initiative de la jeunesse jusqu'à cette bascule donc et finalement ce classique désormais de l'histoire malgache, l'intervention des militaires. Sarah Teto nous appelle d'Antananarivo.
Oui, je me trouve actuellement devant le palais présidentiel d'Ambouitsourouch. Le colonel Michael Randrianirine vient d'y faire son entrée officielle pour la toute première fois, escorté par plusieurs blindés depuis moins d'une heure. Il est donc officiellement le président de la refondation de la République de Madagascar. Il a prêté serment en fin de matinée devant les juges de la HCC, la Haute Cour constitutionnelle. Le jour d'aujourd'hui marque un tournant historique pour notre pays, a-t-il déclaré tout à l'heure lors de la cérémonie, avec un peuple en effervescence, mû par la volonté du changement, nous ouvrons, poursuit-il, un nouveau chapitre de la vie nationale. Dans la salle, un parterre d'invités, hein, parmi lesquels de très nombreux hauts gradés de tous les corps de l'armée, police et gendarmerie confondus, des personnalités politiques, mais très peu évidemment du régime Radzoïne, des représentants de la Gen Z, mais aussi de nombreux représentants de la communauté internationale, et ce, au plus haut niveau, ambassadeurs des États-Unis, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, la Chine, le Japon. La Russie était aussi représentée par un chargé d'affaires. Alors cette présence massive des chancelleries étrangères, plutôt très discrète hein, ces derniers jours, sur cette prise de pouvoir par les militaires, vaut-elle reconnaissance du nouveau régime de transition en place? Écoutez, aucun représentant étranger n'a souhaité s'exprimer à l'issue de la cérémonie. Et jusqu'à présent, seule l'Union africaine et les Nations unies ont, je le rappelle, condamné ouvertement ce qu'ils qualifient, eux, de coup d'État.
Voilà, correspondance à Antananarivo, donc signé Sarah Teto.
Une voiture entièrement détruite, une maison qui tremble sous l'effet d'une bombe capable de tuer.
Oui, il était environ 22h hier soir près de Rome lorsque deux fortes explosions ont retenti, celle d'un attentat visant le journaliste italien d'investigation Sigfrido Ranucci. Alors fort heureusement, personne n'a été blessé. Par ailleurs, l'homme avait déjà par le passé subi des menaces et autres intimidations, mais jamais d'une telle violence. Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Rome, depuis hier soir, cette explosion, Bruno, suscite un déluge de condamnations de la part de très nombreux responsables politiques, de tous bords d'ailleurs.
D'après les premières constatations, la bombe rudimentaire contenait 1 kilo d'explosifs environ. Elle avait été placée entre la grille d'entrée du domicile et la voiture du journaliste. Lui et sa fille étaient rentrés peu avant l'explosion. Le parquet antimafia mène l'enquête. Ranucci a 64 ans. Il vit sous escorte. Entre autres menaces, des projectiles avaient été retrouvés à son domicile l'an dernier. Il est l'animateur, dans tous les sens du terme, de l'émission Report sur la RAI, qui traite de tous les sujets délicats liés à la mafia en particulier. Il a eu maille à partir avec le gouvernement Meloni aussi, qu'il critique sans détour. Mais Giorgia Meloni a très vite, sans réserve, condamné cette attaque. Idem pour le ministre de la Justice.
Solidarité totale et inconditionnelle. Nous combattrons avec détermination toute forme d'intimidation mafieuse. La liberté de la presse est la première expression de la démocratie. Un attentat contre un journaliste, c'est un attentat contre l'État à 100%.
Un journaliste est un attentat à l'État à 100%.
Cet après-midi, un rassemblement aura lieu devant le siège de la RAI.
Merci Bruno Duvic, en direct de Rome.
Un Premier ministre sauvé, mais à quel prix?
Si Emmanuel Macron peut se consoler en effet d'avoir évité le pire hier en acceptant sa réforme des retraites, qu'elle soit suspendue donc et ainsi prolonger le bail de Sébastien Lecornu à Matignon, le chef de l'État se retrouve malgré tout à devoir désormais prendre en charge lui-même donc le service après-vente. Hier, réuni à huis clos à l'Élysée, le président avait convoqué une quinzaine de députés et cadres du Parti Renaissance chez qui cette suspension a du mal à passer. Manière pour le chef de l'État, Rosalie Lafarge, de montrer à ses troupes qu'il en assume la nécessité.
C'était le prix à payer pour la stabilité. Voilà en résumé le message délivré par le président à cette petite partie de ses troupes. Autour de lui, notamment Elisabeth Borne et Olivier Dussopt. Ce sont eux, Premier ministre et ministre du Travail à l'époque, qui ont porté cette réforme. Ça n'a pas été facile, ni pour l'un ni pour l'autre. L'idée de revenir dessus ne l'est pas plus, quand bien même Elisabeth Borne a été la première à proposer dans la presse d'appuyer sur pause. Ça avait d'ailleurs bien agité les députés de Gabriel Attal dans leurs messageries internes. Certains sont depuis devenus ministres du deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu et doivent donc publiquement assumer cette proposition de suspension confirmée par le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale. Mais que feront les élus Renaissance au moment de se prononcer sur cette suspension? L'amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale sera normalement soumis au Palais Bourbon le mois prochain. Or, ils sont nombreux à avoir dit dès l'annonce de mardi qu'ils n'envisageaient pas 2 secondes de soutenir l'inverse de ce pourquoi ils ont plaidé il y a 2 ans. Ici, les députés Sylvain Maillard et Pierre Cazeneuve.
Ah mais moi, qu'on soit très clair. Nous, le groupe Renaissance, votera contre l'amendement. Nous avons porté cette réforme. Nous pensons qu'elle est essentielle.
Je défendrai ma position dans l'hémicycle de manière assez virulente et j'expliquerai le plus clairement possible pourquoi c'est une énorme connerie, cette suspension. Mais maintenant, il faut avancer. Et si c'est le chemin pour la stabilité, alors prenons-le.
Et s'il s'est bien gardé de donner des consignes de vote hier, Emmanuel Macron a insisté, selon plusieurs participants, sur l'importance de la stabilité, encore elle, pour le pays. Mais on n'est plus là pour jouer les bons élèves, tranche un des invités. Si on doit finalement retourner aux urnes, on mettra quoi sur notre acte, dit-il. Convaincu qu'il est temps pour les macronistes de se mettre à porter une vision politique dans l'hémicycle.
Alors après avoir échappé à la censure, on a bien compris que Sébastien Lecornu restait sous la pression de l'Assemblée. En réalité, cette non-censure devrait surtout permettre de maintenir les débats dans l'hémicycle sur le budget censé débuter vendredi prochain. Débat qui devrait notamment jeter une lumière crue sur un certain nombre de mesures d'économie qui risquent de faire encore augmenter le nombre de pauvres. Et ce 3 mois seulement après l'annonce par l'INSEE d'une hausse record de la pauvreté avec plus de 15% de la population concernée. Il se trouve que c'est aujourd'hui la journée mondiale du refus justement de la misère, une journée dédiée cette année à la lutte contre la maltraitance institutionnelle. Comprenez le manque d'accompagnement dans les institutions, manque à la fois de moyens humains et financiers, mais aussi les effets délétères de la numérisation excessive sur les plus précaires qui n'arrivent pas à accéder à leurs droits et à leurs aides. Pour rappel d'ailleurs, 30% des personnes qui ont le droit à des aides n'y ont pas recours par peur ou justement par complexité. Je vous propose d'écouter Anne-Marie de Pascal, elle est déléguée nationale d'ATD Quart Monde pour la France.
Le choix de la maltraitance institutionnelle et de la maltraitance sociale, il fait suite à un travail qu'on a mené sur la reconnaissance des dimensions cachées de la pauvreté, faire reconnaître le fait que la pauvreté, elle n'est pas que monétaire, mais qu'elle affecte toutes les dimensions de la personne. La numérisation qui entraîne un non-accès aux droits, effectivement, hein, quand on fait une erreur sur un formulaire et qu'on peut pas donner juste un coup de fil pour le corriger aussitôt ou rencontrer une personne, ça peut amener à une suspension de versement de RSA pendant 3 mois. Et là, on parle de personnes qui, pendant 3 mois, n'auront pas de revenus. Ça fait partie des questions de maltraitance institutionnelle. Des personnes qui ont des parents dont les enfants sont placés. Je prends l'exemple récent d'un homme qui avait son droit de visite et qui doit prendre le train pour aller voir son enfant. Le train a du retard. Il est absolument pour rien. Il téléphone, il prévient, j'aurai une heure de retard. On lui répond, bah non, la visite est annulée, monsieur. Vous aurez une visite le mois suivant.
Voilà, Anne-Marie de Pascal, déléguée nationale d'ATD Quart Monde pour la France. Elle répondait à Romane Salch. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec partout du soleil. Quant aux températures, elles seront comprises entre 15 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Fabien Etchecopar. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Olivier Vogel pour le prochain journal de la rédaction.